Baptême. Le baptême est un sujet fréquemment mentionné dans le Nouveau Testament. C'est bien plus qu'une simple cérémonie religieuse. C'est un acte extérieur et visible d'une importance capitale pour ceux qui prennent au sérieux leur relation avec Dieu. En lisant le Nouveau Testament, nous constatons qu'il existe plusieurs types de baptême. La première mention concerne Jean-Baptiste et est appelée le baptême de repentance. Celui-ci a été remplacé par le baptême au nom de Jésus. La Bible mentionne également un troisième baptême, qui est le baptême du Saint-Esprit. Commençons par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean était la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Sa mission était de préparer le peuple et de leur montrer Jésus. La façon dont il accomplissait cela était d'ordonner au peuple de se repentir et d'être baptisé. Avant l'époque de Jean, il n'existait pas de baptême. Le peuple a dû se demander « Pourquoi ? Que signifie cela ? Nous n'avons jamais fait cela auparavant. » C'était une coutume nouvelle et étrange pour eux. Jean, le fils d'un prêtre juif, avait peut-être à l'esprit les coutumes liées à l'entrée dans le temple où Dieu demeurait. Les prêtres de cette époque, avant de se présenter devant Dieu dans la maison du Seigneur, se lavaient rituellement en plongeant leurs mains dans un bassin d'eau. Cela symbolisait une purification, non pas physique mais spirituelle, devant le Seigneur. En raison de la sainteté de Dieu et de sa haine du péché, les prêtres devaient être purs pour pouvoir le rencontrer. Sans purification, il ne pouvait pas s'approcher du Seigneur. Jean prenait maintenant cette illustration de la purification et l'appliquait à tous. Il n'était pas seulement nécessaire que les prêtres soient purifiés, mais tout le monde, s'il voulait rencontrer le Seigneur. Jean appelait cette nouvelle cérémonie le baptême de repentance. Et il parcourait toute la région autour du Jourdain, prêchant un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Luc 3:3. Avant sa venue, Jean avait prêché à tout le peuple d'Israël un baptême de repentance. Actes 13:24. Cependant, avant que Jean ne les baptise, il y avait quelque chose qu'il devait faire d'abord. Lisez les versets suivants. Ils étaient baptisés par lui dans le fleuve Jourdain en confessant leurs péchés. Matthieu 3:6. Et toute la région de la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve Jourdain, en confessant leurs péchés. Marc 1:5. Pourquoi la repentance? Pourquoi la confession? Parce que notre Seigneur est un Dieu saint, qui exige que nous soyons saints si nous voulons nous approcher de lui. Confesser, dans le contexte biblique, c'est admettre et proclamer que ce que nous avons dit, fait ou pensé était mal. Se repentir signifie se détourner de notre péché pour se tourner vers Dieu. C'est un demi-tour complet dans la direction de notre vie. Montrons un exemple. Jean baptisait ceux qui confessaient leurs péchés comme un signe pour la communauté, un témoignage pour les autres, qu'ils s'étaient repentis, qu'ils changeaient leur vie. Cependant, certaines personnes venaient à Jean sans être vraiment repentantes. Peut-être voulaient-elles être baptisées parce que d'autres l'étaient. Peut-être pensaient-elles que c'était l'acte spirituel et populaire à accomplir. Il leur disait qu'ils devaient faire plus qu'un simple acte religieux. Quand ils demandaient ce qu'ils devaient faire, Jean leur donnait des exemples précis. Il disait donc aux foules qui venait pour être baptisé par lui. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne commencez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Les foules lui demandaient : Que devons-nous donc faire ? Il leur répondait : que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de la nourriture fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés, et lui demandèrent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Luc 3:7-14. Jean disait en quelque sorte, « Il ne suffit pas de confesser vos péchés avec votre bouche, mais vous devez le prouver par vos actes. Les résultats doivent être un changement de mode de vie. La repentance implique une action de notre part. » Nous lisons plus tard au sujet du baptême de Jean. Et Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Acte 19:4. Plus tard, lorsque Jésus est apparu, il est venu vers Jean pour être baptisé. Jean était perplexe quant à la raison pour laquelle Jésus voulait être baptisé. Jésus n'avait aucun péché dont il devait se repentir, ni besoin d'être pardonné, car il était sans péché. Pourquoi alors être baptisé? Jésus voulait s'identifier aux pécheurs en tout point, tout en demeurant sans péché. Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean y consentit. Après avoir été baptisé, Jésus remonta aussitôt de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix venant du ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3:15-17. Le baptême de Jésus fut un acte d'obéissance envers son Père. C'était aussi une confirmation au sujet de Jésus pour tous ceux qui étaient présents, venant du Père lui-même. Ce fut un envoi officiel pour le commencement de son ministère et un exemple à suivre pour nous. Peu de temps après cela, Jésus poursuivit le ministère que Jean-Baptiste avait commencé. Son message était le même. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4:17b. Sa méthode était également la même que celle de Jean. Ceux qui répondaient à son message de repentance étaient baptisés, bien qu'en réalité ce ne soit pas Jésus qui baptisait, mais ses disciples. En fait, il donna un commandement à tous ses disciples. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc 16:15-16. De cette déclaration, nous pouvons remarquer une progression. Premièrement, quelqu'un doit prêcher l'Évangile. Deuxièmement, une personne doit entendre l'Évangile. Troisièmement, elle doit y croire. Croire en l'Évangile comprend la repentance des péchés. La foi exige une action. Quatrièmement, ils doivent être baptisés. Ce processus dans son ensemble produit le résultat qu'ils seront sauvés. Une chose est claire. Jésus n'a pas dit que ceux qui ne sont pas baptisés seront condamnés, mais plutôt ceux qui n'ont pas cru. En d'autres termes, le baptême ne sauve pas les gens, mais la foi est la réponse à l'Évangile. Oui. Le baptême, donc, est une étape d'obéissance. Toute personne qui a cru et confessé ses péchés doit franchir l'étape suivante, le baptême. Il ne s'agit pas de dire « je dois d'abord être plus mûr en tant que chrétien. Je n'ai pas encore lu toute la Bible. Il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler dans ma vie. Ces choses sont bonnes, et tu devrais t'en préoccuper. Mais elles ne sont pas des prérequis pour le baptême. Le baptême n'est pas une option dans le christianisme. Tu peux si tu veux, mais tu n'es pas obligé. C'est un commandement. » Jetons un coup d'œil au premier sermon évangélique et au baptême dans l'Église primitive. C'était 40 jours après que Jésus est monté au ciel, et les disciples attendaient et priaient pour l'effusion du Saint-Esprit. Soudain, au cours de leur réunion, ils furent remplis du Saint-Esprit. Des gens du monde entier entendirent les disciples parler en d'autres langues, des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Louons Dieu. Il y avait des réactions diverses dans la foule quant à la signification de cet événement. Certains pensaient qu'ils étaient ivres. D'autres ne savaient pas quoi en penser. Alors Pierre prêcha un message puissant et expliqua le ministère de Jésus le jour de la Pentecôte. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a accrouvé au milieu de vous par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a accomplis par lui parmi vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et fait mourir par la main des impies.
24. Mais Dieu l'a ressuscité en déliant les douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. 25. Car David dit à son sujet, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. 26. C'est pourquoi mon cœur a été dans la joie, et ma langue s'est réjouie. Même ma chair reposera avec espérance. 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. 29. Frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. 30. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait juré, par serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. 31. Il a prévu et annoncé la résurrection du Christ, en disant qu'il n'a pas été abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair n'a pas vu la corruption.
32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. 33. Élevé donc par la droite de Dieu, et ayant reçu du Père le don du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez. 34. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite. » 35. Jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. 10. Car toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu les appellera à lui. 40. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » 41. Ceux donc qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le premier sermon de Pierre couvrait tous les éléments essentiels de l'Évangile. Il convainquit la foule en utilisant de nombreuses écritures, leur parla de leur séparation d'avec Dieu, de leur état de péché, de la raison de la mort de Jésus, de sa résurrection et de son ascension, et surtout, de la réponse nécessaire s'il voulait être sauvé.
Vous devez invoquer le nom du Seigneur, Jésus-Christ. 21. Jésus de Nazareth a été envoyé par Dieu, et a accompli de puissants signes et prodiges. 22. Jésus a été crucifié. 23. Il a été ressuscité par Dieu le Père. 23. Il a été élevé à la droite de Dieu. 20, 33. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Seigneur est chef en charge. Christ est loin et oint pour pardonner, guérir, sauver. 26. Repentez-vous. 20, 38. Soyez baptisés. 20, 38. Il a parlé à ses auditeurs de la vie, de la mort, et de la résurrection de Jésus, et du fait qu'ils étaient des pécheurs, qui n'étaient pas en bonne relation avec Dieu. Les gens ont écouté et lui ont demandé, « Que devons-nous faire ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes 2, 38. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Actes 2, 41. Remarquez qu'il n'y avait aucune exception. Pierre a dit, « Chacun de vous. » Ceux qui n'ont pas, 1. Accepté son message, 2. Se sont repentis, 3. Reçu le baptême, n'ont pas été ajoutés à leur nombre ce jour-là. En d'autres termes, ils n'étaient pas comptés parmi les disciples de Jésus. Dans chaque récit biblique du baptême, il y a un certain schéma. 1. Les pécheurs sont confrontés à leurs péchés. Cela se faisait par la prédication de l'Évangile. 2. Les pécheurs ensuite se repentaient, ouvraient leur cœur, acceptaient le message ou croyaient. Concrètement, cela signifiait qu'ils confessaient être pécheurs et se repentaient. 3. Après leur changement de cœur, ils étaient alors baptisés. En d'autres termes, le baptême est une réponse à l'Évangile, une étape d'obéissance envers Dieu, née d'une nouvelle relation avec lui. Il n'y a pas de longue période d'attente de plusieurs mois ou années.
Le baptême est une reconstitution du fait d'être enseveli et ressuscité.
Nous mourons à notre ancienne vie et sommes ressuscités pour une vie nouvelle. Dans la Bible, ceux qui sont baptisés sont toujours immergés dans l'eau. On descend dans l'eau et on remonte hors de l'eau. Ils n'étaient pas aspergés d'eau, ni l'eau n'était versée sur eux. Le baptême n'est pas un acte d'adhésion à une église, ni le fait de suivre un chef d'église particulier. Nous ne sommes pas baptisés au nom d'une église ou d'une personne, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'aimerais poser à chacun ici quelques questions. Premièrement, avez-vous confessé et vous êtes-vous repenti de vos péchés? Deuxièmement, vous êtes-vous tourné vers Jésus dans la foi? Troisièmement, Jésus est-il le Seigneur de votre vie? Suivez-vous ses instructions pour votre vie? Quatrièmement, avez-vous été baptisé à la suite de votre foi, de votre confession et de votre repentir? Point.